France Culture, les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard.
Les romans changent-ils le monde? Pendant deux semaines, nous explorons 10 œuvres dont on peut assurer qu'elles ont changé quelque chose à la littérature et au 20e, voire au 21e siècle, en compagnie d'autrices et d'auteurs, de spécialistes et de spécialistes de la littérature d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage estival dans les romans qui ont changé le monde en 1974, année de la publication de L'Astoria d'Elsa Morante, traduit en français par Michel Arnaud et paru aux éditions Gallimard en 1977. L'Astoria, c'est la fresque de l'Italie des années de guerre et de l'immédiate après-guerre, vue depuis sa capitale, Rome, et ses quartiers de San Lorenzo, Testaccio et du Ghetto, ainsi que le destin de leurs habitants, les juifs déportés, ceux qui rejoignent les partisans, ou ceux, au contraire, qui se tournent vers les fascistes. L'Astoria, c'est aussi un grand roman de l'enfance en temps de guerre et après. Pour en discuter, nous avons avec nous trois invités, un libraire romain établi à Paris, Andrea Deritis, une autrice italienne francophone, Simonetta Greggio, et un spécialiste de l'histoire des intellectuels italiens au XXe siècle, Frédéric Attal, qui nous rejoint en duplex depuis les studios de France Bleu à Chambéry. Bonjour Simonetta Greggio.
Bonjour.
Simonetta Greggio, vous êtes une écrivaine italienne francophone ou une écrivaine française d'origine italienne? Vous écrivez en tout cas en français depuis longtemps déjà. Votre dernier roman paru aux éditions Stock s'intitulait Bellissima. Vous êtes par ailleurs aussi productrice pour France Culture. Nous vous devons plusieurs grandes traversées estivales, dont celle sur Benito Mussolini il y a 2 ans. Vous êtes aussi l'autrice d'un magnifique roman paru il y a 5 ans chez Flammarion, intitulé Elsa, mon amour, dans lequel vous racontez, vous mettez en récit la vie d'Elsa Morante. Commençons par elle, si vous le voulez bien. Elsa Morante, née en 1912, morte en 1985. Qu'est-ce qui vous l'a rendue si fascinante, Simonetta Greggio, si attachante, en 2 mots?
Déjà, je suis absolument ravie que vous ayez appelé votre émission « Les romans qui changent le monde » parce que c'était son étoile polaire, son grand but dans la vie, c'était de n'écrire que des romans qui changeraient le monde. Et vous voyez, elle est arrivée puisque aujourd'hui nous sommes là en train d'en parler et puisque sa storia est entrée dans les 100 meilleurs livres de tout le temps en 2002, c'est le club norvégien du livre qui a fait cette liste. Donc voilà, pourquoi parler d'Elsa Morante? D'abord parce qu'il y a une énorme injustice, c'est-à-dire qu'on se souvient, on se rappelle de son mari, Alberto Moravia, qui était un discret écrivain, très à la mode, et qu'elle, comme elle n'a jamais été à la mode, Elsa Morante demande avec, je pense, force, qu'on se rappelle d'elle et qu'on s'en souvienne vraiment dans ce qu'elle a de meilleur. À savoir le fait qu'elle a écrit des livres qui ont pu changer notre idée du monde, en tout cas la mienne.
Merci. Et Andrea Deritis, vous êtes traducteur littéraire.
Tout à fait.
Et depuis bientôt 15 ans, si je ne me trompe pas, vous êtes avec votre associé Florence Rowe, libraire de la librairie à Parigi, librairie italienne, 689 rue du Faubourg Poissonnière à Paris.
Exactement.
Andrea Deritis, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez lu L'Astoria?
Bien sûr, bien sûr. Donc L'Astoria, il est sorti en 74, donc moi j'étais encore au collège, donc j'étais pas forcément très attiré pour ça, j'étais pas un enfant, mais un adolescent. Et par contre, je me souviens très bien qu'à la maison, il y avait déjà L'Astoria chez nous, mes parents, ils avaient ça, mes oncles habitaient à côté aussi, ma grand-mère, c'était un livre qu'on voyait partout. Et j'ai commencé à les lire. Au lycée, parce que c'était un livre que moi j'ai fait des études classiques, lycée classique, donc je ne sais pas comment traduire ça en français, c'est des lycées avec option études classiques, et à part le grec, le latin, il y avait aussi beaucoup de philo et d'histoire. Et je me souviens très bien, mon professeur d'histoire qui a dit, si vous voulez savoir, dernière année, c'était donc l'histoire moderne contemporaine, si vous voulez savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre, et qu'est-ce que ça a été un peu la guerre en Italie et à Rome en particulier. Bon, je suis romain, donc je connais très bien tout ce qui est décrit dans le livre. Il nous disait justement, le professeur, il faut lire absolument L'Astoria. Et c'est comme ça que, bon, j'ai commencé à lire ça et j'étais attrapé par ce roman qui m'a parlé énormément. Et donc tout le monde, c'était le livre qu'il fallait lire, voilà.
Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous un historien spécialiste des intellectuels italiens au XXe siècle, Frédéric Attal, qui nous rejoint en duplex depuis les studios de France Bleu à Chambéry. Frédéric Attal, vous êtes historien, donc professeur à l'université de Valenciennes, spécialiste de l'Italie, auteur entre autres d'une histoire de l'Italie depuis 1943 et aux éditions Les Belles Lettres d'une histoire des intellectuels italiens au XXe siècle. Bonjour Frédéric Attal.
Bonjour.
Frédéric Attal, qu'est-ce que la figure d'Elsa Morante vous suggère, comme ça, de prime abord?
Je dirais peut-être la deuxième grande romancière du XXe siècle ayant connu un minimum de succès. Il y a Sibille Aleramo, qui est, on peut dire, la première et la pionnière, qui, au début du XXe siècle, publie Une femme, une des premières féministes aussi. Et Elsa Morante, on peut dire, avec Amelia Rosselli aussi, qui est une poétesse, est l'une des toutes premières écrivaines à avoir percé, malgré le fait que ce soit une femme, j'ai envie de le dire, parce que il y a quand même eu, et on le verra dans l'accueil de la story, il y a une forte misogynie, je pense. Et elle a quand même été reconnue prix Viareggio, hein, qui est un prix pour son premier roman. Donc c'est en soi d'ailleurs un exploit, en 1948. Il y avait eu Ada Negri, je crois, auparavant. Mais elle, véritablement, elle, puisqu'elle perce, elle fait une œuvre monumentale. Ça a été dit, ça sera sans doute redit au cours de cette émission, qui en effet est un éclairage extraordinaire, éblouissant, on peut le dire dans tous les sens du terme, du XXe siècle. Parce que même si c'est centré sur les années de guerre, c'est une fresque comparable un peu à Novecento Bertolucci, si je puis dire. C'est-à-dire ça prend quand même racine au début même du XXe siècle, dès les premières pages du roman. C'est pour moi Elsa Morante, c'est vraiment l'éclairage, le phare de l'histoire du XXe siècle italien, sous tous ses aspects, y compris dans la réception de son roman d'ailleurs.
Alors pour commencer, écoutons comme chaque matin un extrait du début du texte, La Storia, traduit par Michel Arnaud et lu par la comédienne Élodie Hubert.
Pour dire la vérité, la seule chose que d'instinct Gunther était en train de chercher en ce moment par les rues de Rome, c'était un bordel. Non tant par une envie urgente et irrésistible que plutôt parce qu'il se sentait trop seul. Et il lui semblait que c'était uniquement dans un corps de femme, en se noyant dans ce nid chaud et amical, qu'il se sentirait moins seul. Mais pour un étranger de sa condition et de l'humeur farouche et sauvage qui était la sienne, il y avait peu d'espoir de découvrir un tel refuge dans les parages à cette heure-là et sans le moindre guide. Et on ne pouvait pas non plus compter pour lui sur la chance d'une rencontre de rue occasionnelle, car bien qu'étant devenu, presque sans s'en rendre compte, un bel adolescent, le soldat Gunther était encore plutôt inexpérimenté, et au fond même timide. De temps en temps, il se défoulait en donnant des coups de pied dans les cailloux qu'il rencontrait, s'amusant peut-être, pendant un instant, à imaginer qu'il était le fameux Andreas Kupfer, ou une autre de ses idoles du ballon rond. Mais immédiatement, il se rappelait son uniforme de combattant du Reich. Et avec un haussement d'épaule qui déplaçait un peu son calot sur son crâne, il reprenait son air grave.
Nous venons d'entendre un extrait de La Storia lu par Élodie Hubert, le tout début du texte, celui par qui le scandale arrive, le personnage de Gunther, Simonetta Greggio.
Ah oui, ce début est éblouissant. Après, c'est comme si Elsa partait un peu sur les traces des parents, des grands-parents, etc. Elle a besoin de faire un peu le pedigree de tout ce qui se passe, d'Idalamondo, qui est donc cette petite figure d'enseignante extrêmement humble, qui passe totalement inaperçue et par laquelle le scandale arrive. Puisque Gunther, le petit Gunther, le jeune Gunther, lui fera un enfant en la violant. Donc c'est là le début d'Ouzeppe, qui est pour moi, ce petit garçon, une des figures les plus éblouissantes de la littérature du siècle dernier.
Mais on voit aussi déjà immédiatement, on rentre donc dans ces années de guerre, les chapitres sont tous précédés d'un panorama historique qui raconte les événements de l'année en cours. Donc on est en 1941, si je ne me trompe pas, au moment où s'ouvre le livre et où ce soldat allemand, Gunther, dont on sait que les Allemands n'étaient pas très appréciés à San Lorenzo, se promène et ivre, alors qu'il cherche un bordel, va finir effectivement par violer la protagoniste, Frédéric Attal.
Oui, c'est un roman qui débute en 1941 et comme Simonetta l'a dit, fait un petit retour en arrière pour raconter les racines en partie méridionales d'Ida, l'une des héroïnes. Mais ce qui est assez fascinant, c'est le récit, en effet, comme vous l'avez dit, au début de chaque année, 41, 42 jusqu'en 47, des événements mondiaux pour insérer on ne peut pas dire la petite histoire, parce que c'est une grande histoire, en fait, celle de la Storia, mais l'histoire de ces personnages humbles, les insérer dans une grande histoire qui est racontée de manière, je dirais, presque neutre et chirurgicale, avec un ton de pessimisme, de fatalité, comme si finalement l'histoire se répétait de la même façon entre 1941 et 47. C'est cette impression que donne cette introduction ou ces introductions de chapitres qu'écrit Elsa Morante.
Alors, un de la vérité, on voit déjà un des personnages les plus importants du roman, qui est Rome, la ville de Rome. Et là, on est directement dans ce quartier de San Lorenzo. Et c'est aussi un roman extrêmement urbain, finalement, de description de cette ville et de ce peuple romain.
Bien sûr, bien sûr. Rome, c'est très présent dans la storia. Et je me retrouve parfaitement dans ces livres parce qu'il parle de rues, de quartiers que je connais très bien. Et il parle d'abord de San Lorenzo. C'est un quartier très populaire, un quartier qui est né un peu à la fin du 19e siècle, autour de la gare marchandise Scalo San Lorenzo, qui était un peu très important. Et donc, c'est une population, pour la plupart, c'était habité par des cheminots. Donc, très ancré à gauche. Et voilà, d'ailleurs, dans les livres, on parle à un certain moment, justement, de la résistance faite par le quartier par rapport à la marche sur Rome. Enfin, et le seul quartier à Rome qui a essayé un peu de faire résistance contre les fascistes, d'ailleurs, il l'a payé parce qu'il y a eu une sorte de punition par Italo Balbo quelques jours après. D'ailleurs, le livre, il parle de ça. Il y a eu des morts, justement, parce que les fascistes, ils ont après revenu sur le lieu, ils ont essayé de tuer les gens qu'ils trouvaient dans la rue. Et c'est un quartier très beau, donc c'est un quartier qui, évidemment, elle a beaucoup changé par rapport à l'époque, parce que c'était des années 40, c'était pas du tout le même quartier quand elle a écrit, enfin dans les années 70, c'était un quartier déjà beaucoup plus moins populaire, c'était très habité par les étudiants, parce que c'est juste à côté de l'université de la Sapienza, la plus grande université de Rome, et donc c'était le quartier un peu, le terme c'est en italien les fuori sede, et donc c'est les étudiants qui habitent pas à Rome et qui arrivent à Rome, et donc ils vont habiter dans le quartier qui est juste à côté, dans un quartier très populaire et aussi très économique, donc il y a encore justement, je suis allé voir l'autre jour pour voir combien ça coûte une pizza dans une pizzeria très connue là-bas, et ça coûte 5 € la pizza. Donc, et je me souviens, c'était notre QG, quand on sortait les soirs, c'était le quartier où on allait tout le temps.
Alors, il faut, pour poursuivre la présentation de la Storia, il faut évidemment parler de Ida Iduzza et de son origine, puisque vous l'avez remarqué, Frédéric Attal, il y a tout un prologue, en tout cas, dans lequel on explique que Ida est originaire du sud de l'Italie, qu'elle est d'origine juive et qu'elle en a honte. Et il y a tout un passage assez drôle d'ailleurs où on voit comment on transforme un tout petit peu son nom pour ne plus avoir l'air juif, Simonetta Greggio.
Oui, alors il y a tout un paragraphe qui est à la fois drôle mais tragique où Ida essaye de dire Almagia, Almagia. Et alors, ça rappelle quand même le fait que aussi bien Moravia que elle avaient des origines juives et que donc ils ont été obligés de se cacher pendant la guerre. Tandis que Moravia restait à Fondi, Morante est rentrée à Rome et elle s'est fait aider pour ramener des affaires par des nazis dans le bus. Elle était vraiment héroïque et à la mesure de ce qu'elle raconte dans la Storia, d'ailleurs, cette espèce de, je dirais, de hardiesse, vous voyez, de courage, que l'on rencontre aussi bien dans ces personnages, même s'ils n'ont aucune chance, que dans sa vraie vie. Et ce fait d'aller contre son propre destin, son fatum de juive ou de ce petit Ouzep qui est évidemment juif, lui aussi, par le sang de sa mère, voilà, moi ça m'émeut toujours, ça me fait toujours pleurer. Je connais la Storia depuis que je suis étudiante. Je l'ai lue peut-être 15 fois et je pleure toujours à certains, quand je la relis, en tout cas quand je relis certaines parties, parce que c'est en ça que ce livre change le monde. C'est parce qu'il vous empêche de rester indifférent au sort des plus petits, des plus humbles et de ceux qui seront balayés par l'histoire.
Frédéric Attal, les lois anti-juives et la déportation des juifs sont au cœur du roman.
Oui, peut-être moins les lois elles-mêmes de 1938 que vu du côté de Ida. La focale, c'est en partie Ida qui, à la fois, est fascinée par un judaïsme qu'elle doit rejeter parce qu'elle a peur pour ses enfants. comme Simonetta l'a rappelé, finalement par la mère, c'est son petit Ouzep, alors qu'il est entre guillemets un quart juif, il reste juif selon les lois rabbiniques et les lois raciales. Donc elle, on voit finalement le judaïsme à travers elle, et bon, il y a un passage peut-être sur lequel on reviendra, qui est l'un des plus émouvants, lorsqu'elle suit une femme qui va être déportée dans le convoi qui a emporté des juifs de Rome. Il y a cette fascination donc pour la judéité qu'elle rejette, il y a cette fascination pour le ghetto, mais je pense que le roman, enfin là où vraiment on atteint le paroxysme de, à la fois de l'horreur, de la douleur, et en même temps enfin, d'une empathie évidemment vis-à-vis de ces personnages, c'est la déportation des juifs du ghetto à Auschwitz, et sur les 1000 et quelques juifs déportés, seuls 15 reviennent, et on suit aussi le retour de ces déportés. Donc c'est, j'allais dire, au-delà même de l'histoire globale de ces lois raciales et d'antisémitisme, c'est avant tout comment les juifs ont été victimes dans leur chair, vraiment, et puis on est vraiment dans un roman qui raconte, qui décrit par le menu la souffrance dans la chair donc de ces juifs qui reviennent, qui d'abord sont déportés et qui reviennent. Et il y a une autre histoire qui est celle d'un anarchiste d'origine juive qui porte plusieurs noms, hein, David Segré. David Segré, lui, n'est pas déporté, toute sa famille est déportée. Et lui, il porte en lui, plus que Ida, la rage à l'égard des nazis, à l'égard des fascistes qui ont déporté toute sa famille. Donc c'est omniprésent, plus à travers la déportation qu'à travers l'histoire même des lois raciales, mais c'est aussi à travers Ida, hein, ce rapport ambigu qui est sans doute celui d'Elsa Morante à l'égard du judaïsme par sa mère, hein, institutrice à Modène, ce rapport ambigu au judaïsme, c'est Ida qui nous le fait vivre. En revanche, donc cette question de la déportation et du massacre des juifs qui nous heurte, qui est profondément violent, mais en même temps raconté de manière extraordinaire par Elsa Morante. Et ça, c'est vraiment au centre du roman. D'ailleurs, les pages des années 43-44 sont, je crois, les plus importantes en termes quantitatifs du roman.
Et il y a aussi, bon, bien sûr, toute une série de portraits, puisque nous en sommes encore au début du texte. Et Ida vient d'être donc violée par Gunther. Elle va mettre au monde cet enfant Ouzep, qui ne s'appelle pas vraiment tout à fait Ouzep, parce qu'il n'arrive pas à prononcer bien son nom, dont on va apprendre petit à petit qu'il est épileptique, gravement malade. Et il y a aussi dans l'historien, à part l'aspect purement roman historique, aussi un ensemble de portraits extrêmement attachants en réalité de ces personnages comme un théâtre très très vivant de la Rome de l'époque. Andrea Deretti.
Tout à fait, oui, bien sûr. Il y a un certain nombre de personnages qui sont très forts dans son livre, à partir de son frère, déjà, Nino.
Nino qui est le premier enfant d'un premier mariage.
Exactement,
de Ida.
Exactement. Nino qui est son frère et qui est très vivace. Et c'est vraiment l'anarchie un peu. Il n'a pas envie de faire des études, donc il va à l'école, il est complètement dépassé, il n'a pas envie, il reste là, il baille tout le temps, il essaie de fuir un peu tous les cours. Et je ne sais pas, il me rappelle un peu vaguement le personnage de l'île d'Arthur, un peu cet gamin Arthur d'ailleurs justement, qui est très naïf, en même temps il a des accès de rage, d'envie de liberté, et en même temps Nino qui était d'abord fasciste, squadrista, après il laisse tomber parce qu'il faisait juste pour essayer un peu de sortir de sa famille, et après il devient un partisan. Et il a son nom de bataille, As de cœur, hein, qui est très particulier. Mais après, il y a plein de personnages. Il y a énormément de personnages. Si on commence à raconter tous les personnages, je pense que ça ne suffit pas l'or qu'on a à disposition.
Simonetta Greggio.
Alors, moi, j'adore les personnages de la storia parce que chacun est porteur d'un message. Parce que Elsa Morante ne laissait rien au hasard. Donc, chacun d'entre eux est une partie d'elle-même qui est en train de nous dire quelque chose qu'elle trouve essentiel. Et il y a notamment un mot qu'elle dit. À un moment donné, elle dit « La chambre à gaz est le seul point de charité, le seul moment de charité dans le camp de concentration. » C'est-à-dire que chacun de ces personnages, une partie d'elle-même qui raconte cette histoire. Alors, on a beaucoup parlé de la Storia comme d'un grand roman choral. Ça a été un roman qui a été mis à l'index par une certaine gauche italienne. Ça m'intéresse toujours beaucoup de voir le pourquoi un roman a des destinées aussi étranges, aussi curieuses. Pour revenir au personnage de Morante, je dirais que chaque personnage, c'est une partie d'elle-même, et notamment Davide Segre, qui est celui qui parle le mieux à la place de Elsa Morante, et qui est peut-être pour ça le moins romanesque, à mon avis.
On va justement entendre Elsa Morante, dans une archive de 1984, au micro de Jean-Noël Schifano, nous raconter comment elle imagine ses personnages.
Les personnages sont des déshérités, en quelque sorte, des déchus. Et alors, les hommes sont souvent des ivrognes, c'est-à-dire des hommes qui boivent.
Parce que je dois confesser que j'étais un peu ivrogne quand j'étais... Moi, quand j'étais très, très... molto giovane. E poi ero molto povera, allora bevevo delle porcherie, come si dice in italiano. E maintenant, je ne peux pas boire pas du tout, parce que je me suis, comment si dice, avvelenata. E intoxiquée. E mon estomac ne supporte pas les alcools maintenant. Aussi en Amérique, je buvais beaucoup.
Et voilà, donc Elsa Morante, en 1984, peu de temps avant sa mort, au micro de Jean-Noël Schifano, qui nous explique finalement que, en réalité, si ces personnages boivent, c'est aussi parce qu'elle a bu elle-même, c'est-à-dire toute la relation qu'il y a entre sa propre observation des faits, la Rome qu'elle a aimée, dans laquelle elle a vécu, et les personnages de la Storia. Simone Tagliaggio.
Ah oui, j'étais complètement sous le charme de la voix de Elsa, qui fait semblant de ne pas parler français, ça me fait trop rire, alors qu'elle parlait parfaitement. Et là, elle joue un peu, elle est en train de flirter, on dirait, avec Schifano, ce qui m'amuse beaucoup, parce que c'est vraiment sa manière de fonctionner, de faire ce charme. Elle qui était tellement, par ailleurs, une vraie casse-pied. Elle avait un caractère de cochon, on peut le dire, hein. C'était quelqu'un de... Elle vous engueulait pour un oui, pour un non. Moi, j'ai vécu à Rome en 78 et la réputation d'Elsa Morante, qui habitait juste à côté de chez moi, avait fait le tour du quartier et vraiment, on faisait attention à ce qu'on lui disait parce qu'elle était pas commode. Donc, pour en revenir encore une fois à ces personnages, c'est vraiment chaque fois une partie d'elle. Il faut pas oublier qu'Elsa Morante est née très, très pauvre et il y a une chose qu'on ne dit jamais, c'est qu'elle s'est prostituée quand elle était jeune pour pouvoir écrire. Vous vous rendez compte, une nana qui se prostitue pour arriver à ses fins, c'est-à-dire à être une grande écrivaine du siècle, c'est quand même une sacrée destinée. C'est normal qu'elle sache si bien décrire les personnages qu'elle crée. Parce que c'est vraiment, elle connaît tout ça de l'intérieur.
Frédéric Attal, pour en venir un peu à la réception justement de la Storia dans les années 70, vous remarquez que la gauche italienne finalement n'a pas pris fait et cause pour ce roman, alors que peut-être, si on le relit aujourd'hui, elle aurait sans doute dû.
Oui, alors ça c'est passionnant, et Simonetta a eu raison de vraiment de souligner ça, c'est passionnant parce que c'est une histoire dans l'histoire, si je peux dire. D'ailleurs, il y a quelques années, vraiment très récemment, une universitaire, Angela Borghesi, a édité en 900 pages les années 74-75 de réception de la Storia d'Elsa Morante. Il y a eu pas moins de, je crois que j'avais compté, 350 comptes rendus de cette histoire. Et dans la gauche italienne, c'est extrêmement négatif. Et elle se prend, la pauvre Elsa Morante, des remarques, mais extrêmement injustes, de la part de même de tous ses amis écrivains, parmi lesquels on trouve quand même Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino et d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? Ben, en fait, je dirais, on est dans les années 70, on est en pleine idéologie, qui envahit partout, hein. Je rappelle quand même que c'est le début des mouvements terroristes, notamment d'extrême gauche. Et dans ce monde d'idéologie, pour moi, la Storia, c'est un roman sans idéologie, mais justement parce qu'il raconte l'histoire au ras du sol, vu d'en bas. Et le personnage d'Ouzeppe, le petit Ouzeppe de quelques années, est une autre des focales du roman. Et ça, la gauche marxiste, envahie par une forme de logorée révolutionnaire, cette gauche marxiste ne supporte pas que finalement le monde naît et meurt dans la Storia d'Elsa Morante à travers le personnage Ouzeppe et qui meurt à 5 ans. Et alors, ce qu'on reproche à Elsa Morante, maintenant, avec le recul, enfin, soit ça fait sourire, soit ça fait pleurer, hein. Quand Italo Calvino dit que le roman ne doit pas faire pleurer, qu'il lui reproche son pathétique, D'abord, moi, je serais pas tout à fait d'accord. Bien sûr, le roman fait pleurer, ça c'est vrai. Mais il n'est pas pathétique. Enfin, c'est pas comme ça que je le verrais, en tout cas pas dans ce sens-là. Mais on se prête à sourire, hein, les remarques de Calvino. Quant à Pasolini, qui était un ami très proche d'Elsa Morante, c'est la rupture entre les deux, et c'est plus complexe. Je me demande s'il n'y a pas de la jalousie, quand même, malgré tout, parce que Elsa Morante écrit un roman que Pasolini peut-être aurait voulu écrire. Hein.
Il faut dire que la Storia, c'est un immense succès, des centaines de milliers d'exemplaires vendus dès la première année. Et oui, effectivement, peut-être on peut imaginer que peut-être que Pasolini aurait aimé lui-même écrire un roman pareil. Retournons donc en 1974 en Italie, mais cette fois-ci en musique. Nous venons d'entendre un extrait de la chanson de Franco Battiato, Aria di Rivoluzione, de 1974, qui justement montre bien un peu l'état, en tout cas la volonté, désir de révolution, d'idéologie dont nous parlions à l'instant, Frédéric Attal. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la question de la réception de la Storia, le problème de sa forme, c'est-à-dire le fait que ce soit un roman historique avec un narrateur omniscient qui finalement est extrêmement classique et très très loin de ce que pouvait faire à l'époque justement Italo Calvino ou Pasolini lui-même.
Du point de vue, en effet, de la technique narrative et littéraire, il faut voir que Calvino s'était rapproché du mouvement de l'Oulipo. Donc, en effet, on est loin de cet avant-gardisme, on va dire, d'écriture. Il faudrait aussi rappeler qu'on est dans la vague, on va dire, 11 ans après le fameux groupe 63, c'est-à-dire de ces écrivains qui veulent inventer de nouvelles formes, parmi lesquels, dans le groupe 63, il y a beaucoup d'auteurs qui ont voué aux gémonies ce roman. Mais quand on lit les comptes rendus, il n'y a pas vraiment d'analyse, en fait, même de la structure narrative du roman. On a l'impression qu'ils s'en prennent au roman parce que, essentiellement, ils racontent, comme je disais, une histoire au ras du sol. Il y a en effet, bon, cette narratrice omniprésente. Il y a aussi, pour moi, c'est là où je trouve que c'est relativement aussi novateur. Il n'y a pas que, en effet, le côté narration omnisciente. C'est que, on pourrait presque dire que la moitié du roman est racontée au niveau d'Ouzep et de ce petit garçon, et j'ai presque envie de dire au niveau des animaux, puisque le lien très fort, qui sont des parties très belles, à mon avis, très émouvantes du roman, avec le chien qui s'appelle Blitz, le premier, puis Belle ensuite. Belle a fait partie des narrateurs ou des narratrices de ce roman. Je crois que c'est peut-être ça qui choquait encore. C'était pas une voix d'autorité qui parlait, une voix, comme je disais, d'autorité, et puis qui reconstruit l'histoire, évidemment, en fonction d'un but révolutionnaire. Ce sont des enfants, ce sont des prostituées, c'est un anarchiste perdu d'origine juive. Ce sont eux les vrais héros du roman, mais ce ne sont pas des héros tels qu'on les voyait dans les années 70. Et c'est peut-être ça qui, en effet, avait dû choquer la critique littéraire, mais pas, évidemment, le public qui a fait une fête au roman. Hein. Je crois que c'est 1 million d'exemplaires au bout d'un an. Donc c'est peut-être le roman le mieux accueilli depuis Le Guépard. Et d'ailleurs, à mon avis, il y a aussi un lien, je pense, dans cette vision de l'histoire avec Le Guépard de Lampedusa.
Simonetta Greggio, comment est-ce que Elsa Morante vit, elle, la réception de la Storia? Est-ce qu'elle est triste de l'accueil de ces intellectuels qui, en théorie, sont ses compagnons de lutte et de vie depuis si longtemps? Ou est-ce qu'au contraire, elle se réjouit juste du succès public?
Alors, c'est très drôle ce que raconte Frédéric. Il a tout à fait raison de raconter cette histoire qui se passe avec Pasolini. Et c'est marrant de penser qu'en fait, c'est moins une histoire littéraire, leur rupture d'amitié, qu'une histoire d'amour. C'est-à-dire que Morante s'est permise de porter quelques critiques sur un des amoureux de Pasolini, et Pasolini lui en veut terriblement. Et c'est vraiment une histoire de commère, quoi. C'est pour ça qu'il lui fait porter le chapeau pour la Storia, ce qui est quand même à la fois profondément injuste et à la fois parfaitement ridicule. Parce que deux grands personnages de l'histoire littéraire italienne en viennent aux mains à cause d'un garçon, quoi, d'une histoire de cul, en fin de compte, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc c'est assez rigolo. Et puis, par ailleurs, je pensais à cet accueil qu'a reçu Morante. Elle était à la fois attristée et à la fois, je pense que ça lui faisait plaisir. Parce que comme je disais tout à l'heure, elle avait un sacré caractère, elle s'en laissait pas compter, elle savait à quel point elle était hors mode, et comme tout ce qui est hors mode, ensuite sera jugé par son style. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle plus de robes grillées, ou est-ce qu'on parle plus de Balzac? Est-ce qu'on lit plus Flaubert, ou est-ce qu'on lit plus le nouveau roman? Moi, c'est un peu ces interrogations qui me parlent quand j'écris moi-même, parce que je me dis que finalement, j'aimerais toujours lire beaucoup plus un Maupassant ou une Elsa Morante que certaines gesticulations, je dirais, littéraires, où il y a des cadres blancs avec des tableaux blancs. C'est très joli à voir, mais enfin, ça va pas très loin. Donc, quand on raconte une histoire, il y a le fond et la forme. Et je pense que Elsa Morante a parfaitement réussi, et l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'elle reste. Et c'est pour ça que, quelque part, elle sera toujours un peu, comment dirais-je, snobé par les grands gardiens du temple de la littérature. Mais vous savez quoi? Tant pis pour eux.
Nous allons demander à notre libraire, Andrea De Ritis, justement, est-ce que Elsa Morante a gagné la bataille contre les écrivains de son époque, Calvino et Pasolini, par exemple?
Je suis convaincu, parce que je pense qu'elle est arrivée un peu à faire avec son livre. D'abord, elle a eu un succès fou. Ils sont sortis tout de suite 600 000 exemplaires. Et donc, c'était énorme pour l'Italie, 600 000 exemplaires, c'est, je ne sais pas, peut-être le guépard de Lampedusa, mais je n'ai pas de souvenir d'un tirage aussi important. Et je pense que avec son livre, donc, qui a été considéré tout de suite un feuilleton, enfin c'est ça, il faut le dire, c'était considéré comme littérature des gares, enfin, pas pour tout le monde évidemment, mais j'ai dit, c'était un peu la critique, c'était un peu ça. Et donc, il avait forcément beaucoup d'intellectuels qui étaient contre son livre de critique littéraire et tout ça, parce que je pense qu'elle arrivait à faire, à enlever cette passage de médiation qui avait le critique littéraire, l'intellectuel entre l'écrivain et le public. Elle est arrivée tout de suite à s'imposer d'une façon autonome, d'une façon très forte, et ça a provoqué pas mal de jalousie, je pense. Donc elle est arrivée à avoir un rapport direct. Et d'ailleurs, moi je me souviens, quand j'ai commencé à lire ça, c'était à la fin des années 70, et mon professeur justement, qui sortait un peu du schéma classique idéologique gauche à droite, il essayait de nous faire, parce que moi je me souviens, c'était pas très apprécié par pas mal des professeurs, donc mon professeur il disait, écoutez, il faut les lire avec beaucoup de d'intelligence, c'est pas un livre qu'il faut lire, il est des gauches, il est des droites, à l'époque c'était un peu ça en Italie, enfin, je sais pas en France, mais à l'époque c'était il est des gauches, donc moi je suis des gauches, donc c'était très bien, c'était considéré des droites, il fallait pas le lire ou il fallait carrément le critiquer. Et voilà, donc je pense que c'est comme ça que les livres, il faut les lire. C'est quelqu'un, justement, comme on l'entendait tout à l'heure, il est sorti un peu du schéma idéologique de l'époque, et, enfin, en général, de l'idéologie gauche-droite.
Écoutons une deuxième fois Elsa Morante à Rome en 1984.
Je suis née à l'hôpital parce que ma famille était pauvre. Mais mon enfance, jusqu'à 9 ans, 10 ans, était au testaccio, oui. Alors, dans la storia, j'ai mis le testaccio aussi. J'ai parlé de San Lorenzo, qui est un quartier à côté du Verano.
Mais le cimetière de Rome, le Verano, apparaît à d'autres endroits dans la storia aussi, je crois.
Dans la storia, oui, mais je ne me souviens pas.
Si le personnage, au début de la storia, habite à San Lorenzo.
Oui, hein, oui. La maison a été détruite par le fameux bombardement de Rome.
Oui,
et après, il y a eu le départ des Juifs sur le train déporté, qui m'avait beaucoup... C'était une chose vraiment atroce.
Elsa Morante, toujours au micro de Jean-Noël Schifano, nous raconte peut-être deux moments clés de la storia. Un, le bombardement de San Lorenzo, et deux, le fameux train de déportés qui quitte Rome, Simonetta Greggio.
Alors c'est fou que vous me parliez de ça, Mathias, parce que le début de mon livre, Bellissima, raconte une vraie histoire. Maman, qui est une petite fille que ma grand-mère met dans un train pour qu'elle échappe au bombardement et à sa judaïté, croise le train. Donc elle est à Milan, et le train va à Padoue, et maman, dans son train, croise le train de ces gens qui allaient mourir à Auschwitz. Et en fait, le train est ouvert à Padoue pour la première fois. Donc, on sort les morts, on sort les femmes qui ont eu des enfants dans ce trajet horrible. Et voilà, c'est une vraie histoire, la mienne, qui rencontre la storia de Elsa Morante.
Et Frédéric Attal, est-ce que avant le roman La Storia, cet épisode avait déjà été beaucoup raconté dans la littérature italienne, ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment le moment au milieu des années 70 où on revient sur ces événements des années 40 ?
Oui, ça c'est vraiment un élément important. On parle très peu de ça. Je rappelle juste que l'ouvrage de Primo Levi, qui est très connu, évidemment, c'est un homme, quand il paraît en 46, il est paru dans l'indifférence totale. Et d'ailleurs, Einaudi, qui va publier la storia, ne le publie pas. Et alors, c'est vrai qu'il reparaît après, en 1960. Et donc, on a quand même déjà un petit peu, au moins, une idée de ce qui se passe. Mais ce que raconte Elsa Morante, et finalement, elle le dit aussi dans son roman, c'est l'indifférence avec laquelle les Juifs reviennent à Rome, sont accueillis. On ne les entend pas, c'est ce que dit Simone Veil aussi par ailleurs pour la France, on ne veut pas les entendre, et on raconte très peu cette histoire. Pourquoi ? Parce que c'est gênant, parce qu'ils n'ont pas été protégés, parce que ce sont les nazis, mais aidés des miliciens fascistes qui déportent ces juifs, parce que Elsa Morante raconte dans le détail, c'est profondément émouvant, non seulement la déportation, ce qu'ils ont vécu, cette souffrance, quelque chose qu'on ne voulait pas entendre et qu'on n'a pas entendu pendant très longtemps. On parlait des partisans, on glorifiait la résistance, un peu comme on le faisait en France d'ailleurs, mais on ne parlait pas des victimes elles-mêmes. Et je crois qu'il y a un autre élément peut-être qui, moi, m'apparaît avec le recul qui a dû choquer à l'époque, c'est que Elsa Morin raconte les Juifs déportés qui reviennent, victimes de cette violence et de cette atroce souffrance, mais elle raconte aussi la disparition des soldats fascistes dans le fond de l'Est, qui meurent ou qui reviennent profondément marqués après leur expérience dans les camps soviétiques. Et je ne dis pas qu'elle aimait complètement parler, ce n'est pas son but, mais elle dit en gros que la violence et la souffrance n'a pas d'idée, n'a pas d'idéologie, n'est pas politique. C'est d'abord quelque chose qui est vécu dans la chair par les personnages. Et ça, peut-être, à mon avis, ça a dû choquer d'avoir mis toutes les victimes, en quelque sorte, sur le même plan.
Toutes les victimes et aussi, justement, le mode de fonctionnement de la déportation, c'est-à-dire un certain réalisme dans ce que c'était que le ghetto de Rome, comment il a été vidé. Enfin, les personnages sont témoins réellement et témoignent de ce moment-là de la même façon que elle-même, sans doute, Elsa Morante en a été témoin.
Moi, je pense qu'il y a quelque chose, enfin, c'est mon impression, hein, bien sûr, qui est que c'est peut-être le moment le plus fort, l'un des moments, il y en a plein, mais l'un des moments les plus forts du roman, c'est Ida qui cherche à la fois à fuir son identité de juive, qui poursuit cette juive, qui elle-même veut partir avec le convoi des déportés. Cette scène est extraordinaire, elle est terrible. Et elle dit « Moi aussi, je suis juive », alors qu'elle porte son enfant Ouzep et qu'elle veut sauver, bien évidemment, de cette forme de déportation. Je crois que, presque, j'ai envie de dire, Elsa Morante, elle résume toute la complexité de la judéité en Italie ou même en France, à cette époque-là, et même, j'allais dire, dans tout le XXe siècle. Jamais on l'avait écrit comme ça, jamais on l'avait dit, et à ce moment-là, ça laisse indifférent, non pas le public, au contraire, mais ça laisse indifférente la critique, ou la critique, on va dire, la plus célébrée à l'époque, dans les années 70.
Écoutons un deuxième extrait de La Storia, lu par la comédienne Élodie Hubert.
Il reste donc à raconter pour finir ce printemps-été de 47, avec les vagabondages d'Ouzepe et de sa camarade Bella, en permission dans le quartier Testaccio et ses alentours. S'il n'y avait pas eu Bella pour le garder, une telle liberté aurait certainement été refusée à Ouzepe. Il était souvent repris par des envies irréfléchies de fugue, c'est-à-dire par des envies de marcher droit devant lui, sans destination précise. Et il n'y a pas de doute que si Bella n'avait pas été là pour le freiner et le ramener à la maison à l'heure habituelle, il se serait perdu. En outre, de temps en temps, des peurs le secouaient inopinément. Le mouvement d'une ombre ou d'une feuille suffisait pour l'alarmer ou le faire sursauter. Mais heureusement, dès qu'il tournait ses yeux inquiets, la première chose qu'il voyait, c'était le visage de Bella, avec ses yeux marrons contents de cette belle journée et sa façon de respirer bouche ouverte qui semblait applaudir l'air. Au cours de la saison, les rencontres et les aventures ne firent pas défaut à ce couple solitaire. La première aventure fut la découverte d'un lieu merveilleux. C'était là précisément le lieu de sa connaissance où Ouzepe avait projeté d'amener le petit animal sans queue. Et de fait, cette découverte avait précédé de peu la visite au professeur Marchioni. Ce fut un dimanche matin, après le bref intervalle de leur claustration, où Ouzepe et Bella avaient de nouveau la permission de sortir. Et ils étaient tellement impatients qu'à 9h, après avoir dit au revoir à Ida, ils étaient déjà dehors.
France Culture, les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard.
La Storia, c'est aussi un grand roman sur l'enfance. Andrea De Ritis et l'enfance, et les enfants et ces enfances romaines, justement, d'exploration urbaine.
Bien sûr, on voit très bien cet enfant qui cherche un peu, qui vagabonde un peu pour la ville, et c'est très évident que souvent il y a des rapports avec d'autres enfants, donc la mère d'ailleurs qui s'inquiète parce que vers la fin il commence un peu à rejeter un peu l'amitié des autres enfants qu'ils ont autour de lui. Et c'est très évident, ça fait un peu penser à ces films néo-réalistes, Ladri di biciclette, Voleur de bicyclette, non? En français, où il voit plein d'enfants partout, et c'est presque la reconstruction italienne, donc c'est un peu le moment très important pour ça. Et la chose qui est très forte dans ces livres, c'est ses rapports avec aussi ses enfants, avec la ville très présent, ces jeux dans les cours, avec les parents qui appellent de la fenêtre, avec ces mots en dialecte romain. Donc évidemment, moi, en tant que romain, ça me parle énormément parce que c'est un peu moi qui, ma mère, elle faisait avec moi, elle m'appelait par la fenêtre quand il fallait rentrer et je voulais pas rentrer, évidemment. Et c'est donc, c'est très évident, c'est très beau, cet rapport avec la ville qui est construit, qui est photographié par ces romains.
Simonetta Greggio, justement, sur cette enfance d'après-guerre, en réalité, hein, parce que c'est les années entre 45 et 47, la fin du roman.
Oui, alors, je pense toujours à Belle. Vous avez entendu, comme moi, qu'il dit le visage de Belle. Il ne dit pas le museau de Belle. C'est vraiment... Elsa Morante, c'est vraiment la première antispéciste dans le roman italien. Et ça m'amuse toujours de voir à quel point elle met finalement cet enfant Giuseppe avec son enfance très heureuse jusqu'au moment où il est pris par la maladie. Et cette Bella qui est finalement, à mon sens, peut-être l'un des trois personnages principaux du roman. Et Bella, c'est comme Giuseppe. Pour Elsa Morante, c'est dans sa compassion, dans son empathie pour le monde. Voilà, c'est cette enfance-là dont me parle ma mère, finalement, et que je retrouve lorsque je réécris tout ça, moi qui n'ai pas connu l'après-guerre. Mais ça me parle infiniment, et je trouve qu'il y avait une sorte de liberté qui était celle d'Elsa Morante, absolument, parce que le danger et la mort étaient tellement présents que cette liberté-là devenait peut-être encore plus nécessaire qu'aujourd'hui. Moi, je me souviens de ce qu'on faisait quand on était petit. C'était pas du tout... Les enfants, aujourd'hui, ne quittent pas les yeux de leurs parents. Nous, on partait le matin, on revenait le soir sans que personne ne nous demande rien. Comme à l'instar de ce petit Giuseppe. Donc voilà, c'est vraiment un monde disparu dont Elsa Morante parle parfaitement et qui est plus vif encore, plus vivace encore à nos yeux que tant de personnages modernes, contemporains. Elle nous parle de l'histoire éternelle, en fait.
Et puis il y a aussi cette faconde romaine dont parlait André Laveritis, qui est aussi extrêmement présente et qui est absolument, qui participe de la matière, du langage, du livre. C'est vraiment comment est-ce qu'on parle, on crie, on s'interpelle à Rome. Les voix de cette romanité populaire fabriquent la chair du roman aussi, non ?
Bah, c'est-à-dire que c'est tellement compliqué de traduire la storia parce qu'il y a ces romanesco qui est toujours là, qui est toujours présent, et c'est un dialecte finalement qui est encore tellement vivace quand on va à Rome. Si vous parlez pas le romanesco, vous risquez de rester vraiment en deçà de Rome parce que ça fait partie de sa fibre la plus vivante, quoi, la plus claire, cette loquacité romanesque est, oui, la chair de Rome. Et il a raison, Andrea, quand il parle de ça, parce que Rome, sans les Romains qui parlent cette langue, ça serait une autre ville. C'est incroyablement, incroyablement vulgaire, drôle et vif.
Alors, la fin du roman est tragique, et justement, le destin d'Giuseppe, est-ce qu'on peut le prendre, est-ce qu'il y a un côté symbolique pour vous, Frédéric Attal, dans cette tragédie? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on lit, ou comment est-ce qu'on peut lire, en tout cas, la mort d'Giuseppe et cette tragédie? Est-ce qu'il faut y voir une métaphore de quelque chose?
Elsa Morante, je crois, dit de toute façon que toute l'histoire se résume à justement... La grande histoire se résume à la mort de cet enfant, hein, qui est victime, en quelque sorte, de la grande histoire. Je crois que c'est... chez Elsa Morante, je ne pense pas que la fin de Giuseppe soit symbolique, métaphoriquement, de la fin de quelque chose, mais plutôt l'idée que la violence, les victimes, au-delà des guerres et indépendamment des guerres, cette violence se perpétue. Et que Giuseppe est une des nombreuses victimes à venir aussi de cette continuité de la violence. Et ce qui est assez, peut-être ça aussi, ça a choqué, c'est que finalement, Elsa Morante dit, les choses en 47, les choses continuent. On a le rideau de fer, on a un nouveau bloc, et on a à nouveau ce cycle, en quelque sorte, de victimes qui sont des victimes pas collatérales, mais centrales, des événements historiques. Donc la mort de Houzep, et qui en soi finalement, comme la mort de tous les personnages, je trouve que c'est raconté de manière extraordinaire hein, de ce point de vue-là. La mort d'Houzep, c'est une étape parmi d'autres de ce cycle de violence dont Elsa Morante est dit qu'il n'a pas commencé avec la guerre et il ne s'achève pas avec la guerre.
Quittons un peu le tragique peut-être en musique.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere.
Nous sommes ceux qui écrivent les paroles de notre propre chanson. L'histoire, c'est nous, Simonetta Greggio. Merci de nous avoir suggéré cette magnifique chanson de Francesco De Gregori, La Storia. Et je voudrais qu'on entende encore une fois Elsa Morante nous parler d'un autre aspect peut-être de La Storia, qui est son devenir au cinéma.
J'aime ce directeur qui le fait. Il est un homme que j'apprécie beaucoup, Comencini, et qui aime beaucoup les enfants.
Oui, beaucoup, oui.
Il est venu me visiter. Il va faire la storia. Je lui donne pleine liberté, mais je ne veux pas intervenir, parce que je ne suis personne de cinéma.
Et puis il faut faire autre chose maintenant.
Certainement. Ouais. Je comprends qu'il fera autre chose, mais...
Non, mais vous, je dis, un écrivain, il ne peut pas rester sur les choses passées, il faut continuer, c'est ça. Si vous deviez encore intervenir sur la story, vous perdriez
l'énergie. Non, je ne peux pas. Non, parce que mes personnages sont mes amis. Je pense à eux comme...
Ah oui, on le sent.
Alors, je ne peux pas voir au cinéma des autres visages, des autres. Vous comprenez, c'est difficile.
Mes personnages sont mes amis. Je ne peux pas voir au cinéma d'autres visages que les leurs. C'est très beau, ça, Simonetta Greggio.
Oui, et je pense à Elsa, à la fin de sa vie, avant de tomber malade, je pense à elle qui était la gattara du quartier, comme dans son livre d'ailleurs, et on la voyait partir à Ifori et appeler les chats Codarotto, Romolo, etc. Il y allait avec son petit cartoccio de poisson pour donner à chacun une tête, une queue de poisson. Quand elle allait au restaurant, elle avait toujours son cartoccetto. Elle était incroyable parce qu'en fait, c'était elle-même, son propre personnage, la première de ses personnages. Et comme vous avez bien fait de mettre cette chanson, La Storia siamo noi, parce que c'est vraiment sa pensée, je crois. Et elle dit, la storia si capisce, è tutta un'oscenità fin dal principio. Elle a raison. L'histoire, on le comprend, c'est toute une obscénité depuis le début. Elle a une sorte d'acceptation, de mektoub de ce fatum de la storia. Et c'est pas pour autant qu'elle ne réagit pas de la manière la plus forte possible, quoi. Et c'est pourquoi Elsa Morante est toujours vivante pour moi.
Alors, derrière vérité, c'est ce que vous avez vu, le film de Comencini,
oui,
La Storia.
Oui, bien sûr.
Alors, comment est-ce qu'il a été reçu? Vous vous souvenez un peu de...
J'ai vu surtout l'adaptation à la télévision, donc ça durait plus long, la version plus longue, et c'était très beau.
Avec Claudia Cardinale.
Exactement, oui, avec Claudia Cardinale, et c'était magnifique. Et j'avoue que qu'est-ce que j'ai pleuré quand j'ai vu ce film à la télé, et je me souviens, toute la famille, on était là en larmes, on regardait ça avec beaucoup de passion. questions de transport, on était très et donc c'est mais c'était oui, très très beau et tout le monde je pense a aimé. Enfin je sais pas, j'ai pas lu des critiques mais
c'est drôle justement parce que ce film n'a pas très bonne presse en réalité malgré Claudia Cardinale, malgré Comencini, il est vu un peu justement peut-être comme La Storia, comme un film, vous l'avez bien dit, qui fait pleurer. Frédéric Attal.
Alors moi je l'ai pas vu malheureusement l'interprétation, mais bah c'était un peu normal qu'on confie à Comencini le soin de filmer de toute façon cette histoire d'enfant, hein. C'est évidemment en lui, mais peut-être je sais pas, que j'avoue que j'ai été un peu surpris de savoir que c'était Claudia Cardinale et qui joue le rôle d'Ida, qui est décrite comme une femme très modeste qui vieillit prématurément. Donc je ne sais pas si peut-être qu'il y avait un contraste entre le personnage tel qu'on l'imaginait dans La Storia et la façon dont Claudia Cardinale le jouait. Je pense que c'est ça. Moi, ce qui me fascine, c'est que, si je peux dire, c'est que La Storia annonce pour moi un nouveau courant, hein, qui est un courant historique, qui est l'histoire à ras du sol, hein, qui est la micro-storia. Et donc je pense que si on devait aussi dire quelle est la place d'Elsa Morante dans l'historiographie, puisqu'on parle quand même, parce que c'est une histoire qu'elle écrit autour de la grande histoire, c'est une place, à mon avis, d'ouverture. Je pense qu'elle a pu inspirer une autre façon d'écrire l'histoire, hein, de ce point de vue-là.
Ah oui, vous pensez vraiment que des historiens ont repris La Storia, non pas comme un objet littéraire, mais en se disant, ah, peut-être qu'il y a là une façon qu'on pourrait retrouver justement la vie de ces personnages pour réécrire l'histoire des années 40.
Alors c'est peut-être une coïncidence, mais j'ai retrouvé un petit peu dans l'histoire. D'abord en lisant les comptes rendus, Natalia Ginzburg a adoré ce roman. Alors même si évidemment Natalia Ginzburg est une écrivaine en soi, Carlo Ginzburg qui est son fils est l'inventeur de ce nouveau courant historiographique qui est la microstoria. Et le premier opus de cette microstoria date de 76. Autour de la vie d'un meunier. Et pour moi, alors je connaissais d'abord la micro-storia, j'ai relu le roman La Storia, mais je me dis, mais ce qu'a fait Elsa Morante, c'est la micro-histoire, c'est-à-dire la grande histoire vue à travers des personnages qui la vivent, parce que comme dans la chanson de Gregori, c'est La Storia sono loro, c'est eux qui la font, ce sont ces petits personnages. Et c'est ce que dit la micro-histoire inventée par Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Maurizio Gribaudi et d'autres encore. Donc pour moi, c'est aussi un événement dans la façon d'écrire l'histoire. En tout cas, je le pense maintenant avec le recul comme ça.
Merci beaucoup Frédéric Attal. Merci Simonetta Aglet. Je remercie Andrea Deritis de nous avoir accompagnés dans cette émission consacrée à La Storia d'Elsa Morante, réalisée par Laure-Hélène Planchet, avec Inès De Bruyne et Julien Voirin à la technique aujourd'hui. Un immense merci à Pierre Chabert qui m'a aidé à la préparer et aussi aux équipes techniques de France Bleu à Chambéry. Nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle station dans les romans qui ont changé le monde, consacrée au tombeau pour Boris Davidovitch de Danilo Kish. À lundi.